Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Julie.
C'est le journal de la culture. À l'instant, au menu de votre journal, l'Ardèche, capitale du documentaire, des figures de la cause féministe rattrapées à leur tour et une grève de la faim longue depuis maintenant 100 jours.
Oui, aujourd'hui, Oleg Sentsov est en grève de la faim depuis 100 jours. 100 jours à ne boire que de l'eau à base de glucose. Alors comme on peut l'imaginer, son état de santé est plus que critique. Pour rappel, le cinéaste ukrainien de 42 ans proteste contre son emprisonnement. Pro-européen, opposant à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2015, il est jugé dans une parodie de procès. Accusé de terrorisme, il est condamné à 20 ans de prison ferme en Russie.
Et Vladimir Poutine fait de lui un exemple. Il montre qu'il peut punir sévèrement tous ceux qui critiqueraient l'annexion de la Crimée.
Alors si Oleg Sentsov décide de mettre sa vie en danger, c'est pour défendre des valeurs, la liberté d'expression et de création et les droits fondamentaux de l'être humain. Depuis des mois, on assiste à une mobilisation mondiale qui demande sa libération. C'est une campagne de soutien qui ne faiblit pas, malgré l'été. Et face à cela, le Kremlin reste de marbre. Depuis le 14 mai, pas de réponse de Vladimir Poutine. Le fondateur de l'association Les Nouveaux Dissidents, Michel Etchaninov, nous explique pourquoi Oleg Sentsov est devenu un symbole.
Oleg Sentsov, véritablement, il cristallise un combat qu'il dépasse. C'est-à-dire qu'il y a 70 prisonniers politiques ukrainiens enfermés en Russie. Il y a d'autres personnes qu'Oleg Sentsov qui font la grève de la faim. Et Oleg Sentsov demande la libération de tous. Et c'est vrai que son courage, sa force de caractère, son entêtement finalement à poursuivre sa grève de la faim, qu'il a répété il y a quelques jours qu'il allait continuer de toute façon, eh bien, fonde Oleg Sentsov, cet homme qui symbolise à la fois la lutte pacifique contre l'annexion de la Crimée, mais également la protestation contre les opérations militaires russes en Ukraine, et enfin, tout simplement, l'autoritarisme de Vladimir Poutine.
On sait qu'Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine pour tenter de trouver une solution et que le chef d'État français, Natacha Triou, aurait certainement demandé à Angela Merkel d'évoquer le cas d'Oleg Sentsov lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine il y a 3 jours.
Oui, alors pas de retour non plus de la part de Moscou. Parmi les solutions envisagées, il y a celle de l'échange de prisonniers politiques entre la Russie et l'Ukraine. Cela a été évoqué, mais cela n'a pas été concluant. Et dans un communiqué récent, la cousine du cinéaste assure que les Occidentaux disposent encore de leviers pour libérer et pour sauver Oleg Sentsov.
Et parmi les autres citoyens de Crimée dont parlait Michel Etchaninov tout à l'heure, ceux qui sont montrés critiques envers l'annexion russe et qui en ont fait les frais, il y a ce fermier par exemple qui a planté un drapeau ukrainien sur le toit de sa maison dans un village de 800 habitants. Des policiers ont fini par trouver dans son grenier 90 cartouches et plusieurs explosifs. Ils l'ont mis en prison, sa famille dénonce un coup monté et affirme que le fermier a perdu 30 kilos aujourd'hui. Natacha Triou, on continue de prendre la route des festivals. Vous nous emmenez aujourd'hui au fin fond de l'Ardèche.
Oui, pour la 30e édition des états généraux du film documentaire. Depuis dimanche, en plein cœur des vignes, le petit village de Lussas est la capitale du documentaire. Non compétitif, l'événement prend le pouls de l'évolution du documentaire en France et à l'international. Parmi les têtes d'affiche, Nicolas Philibert, le réalisateur de Être et Avoir et de La Maison de la Radio, présenté hier en avant-première, de chaque instant, son nouveau film sur la formation des infirmières.
Attention! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Très important. L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs mœurs, leur situation sociale ou leur religion.
Pour piquer en intramusculaire, il faut tendre la peau.
Il faut y aller droit, il faut y aller d'un coup.
Je sers de cobaye, non? Ou c'est la...
Mais vous en faites pas.
Je suis pas le premier.
Hein?
Je suis pas le premier.
Vous êtes mon premier.
Voilà, extrait de chaque instant, le nouveau film de Nicolas Philibert. Le film sortira en salle le 29 août prochain.
Oui, il est très attendu. Et aussi un autre grand nom du documentaire francophone qui est là, c'est Claire Simon. La réalisatrice est d'ailleurs actuellement en plein tournage d'un documentaire sur le festival de Lussas. Et elle est là pour présenter son nouveau film « Première solitude » sur les 16-18 ans. Sortie nationale prévue le 14 novembre.
Le festival de Lussas se déroule jusqu'à samedi. Natacha Triou, vous vouliez nous parler d'un nouveau chapitre dans le mouvement MeToo.
Alors le 15 août, le New York Times faisait sa une avec une nouvelle affaire d'harcèlement sexuel. La célèbre philosophe américaine et universitaire Avital Ronell était reconnue coupable d'harcèlement envers l'un de ses ex-étudiants et a été suspendue de ses fonctions. Féministe mondialement connue, l'affaire a fait grand bruit outre-Atlantique. Et c'est au tour de l'italienne Asia Argento d'être sur le banc des accusés. Selon une enquête publiée dimanche par le New York Times, l'actrice aurait versé $380 000 à l'acteur Jimmy Bennett pour acheter son silence. Elle l'aurait agressé sexuellement en 2013, alors qu'il était encore mineur. Ces révélations suscitent de vives réactions.
D'autant qu'Asia Argento est l'une des têtes de proue du mouvement MeToo.
Elle est l'une des premières à avoir accusé publiquement Harvey Weinstein. Pour le moment, pas de déclaration de l'actrice ni de Jimmy Bennett. Alors certains voient ces deux affaires comme un discrédit jeté sur l'ensemble du mouvement MeToo. D'autres y voient au contraire son prolongement, à savoir la libération de la parole des victimes, de toutes les victimes des violences sexuelles. On écoute Rebecca Solnit, la philosophe américaine, nous expliquer en quoi ce mouvement est un tournant.
Je pense que ce n'est pas un début, mais une combinaison du travail que les féministes ont créé. Elles ont créé le cadre idéal pour que les victimes puissent être entendues. Ce qui est choquant par rapport à Harvey Weinstein ou Bill Cosby ou DSK également, c'est qu'ils ont pu faire ces choses de manière répétée. Et ça, c'est parce que les femmes n'ont pas été écoutées. Et donc, pour changer ces circonstances, il faut que ces femmes deviennent audibles et qu'on puisse les écouter, les entendre, les comprendre et les croire. C'est le féminisme qui a changé l'équilibre de la manière dont les histoires ont pu être dites, comment les femmes ont pu être traitées en tant que personnes dignes de foi.
Rebecca Solnit, la philosophe américaine, ce qui est certain, Natasha Triou, c'est que ces deux affaires révèlent les transformations sociales à l'œuvre et posent plusieurs questions. Pourquoi MeToo ne serait réservé qu'aux femmes?
Oui, ces affaires viennent justement questionner les structures de pouvoir. La militante américaine Tarana Burke, la créatrice du hashtag MeToo, a déclaré hier: peu importe que l'auteur des violences soit votre actrice, activiste ou professeur favori d'un genre ou d'un autre, la violence sexuelle est une question de pouvoir et de privilège.
Et Fatima Benobar du mouvement des effrontés disait dans le journal d'Anne Fauquemberg que MeToo restait un mouvement de masse et parti de la base et qu'il ne fallait pas se focaliser sur certains grands noms. Merci beaucoup Natacha
Triou. Merci Julie.